Donc cet après-midi, la première personne qu'on a, c'est Aparecida Vilaça. Elle est professeure d'anthropologie sociale au Musée national de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Les recherches qu'elle mène depuis de nombreuses années chez les Huari, une population d'Amazonie brésilienne, lui ont permis de renouveler plusieurs questions classiques de la discipline. Elle a notamment travaillé sur les conceptions de la personne et du corps, les conséquences du contact et la conversion des populations amérindiennes au christianisme. Et ses travaux récents s'attachent à saisir l'expérience et la nature du changement en Amazonie indigène. Elle a la gentillesse de vouloir aussi nous dire quelques mots avant de passer la vidéo qu'elle a enregistrée. Et je la remercie de s'avoir levée si tôt. Au Brésil.
Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir d'être chez vous, et pas physiquement malheureusement, mais je suis contente de toute façon et au moins je n'ai pas besoin de porter le masque. Bon, je serai là pour les débats après et j'espère que les vidéos, ça se passe bien. Bonjour. Colonisation et civilisation indigène. Infection sur la longue durée. Je voudrais vous remercier pour cette invitation à participer au colloque d'ouverture du Collège de France et dire combien j'aimerais bien me trouver parmi vous à l'occasion de cet événement si important. Au Brésil, d'où je vous parle, nous sommes encore en pleine pandémie du coronavirus. Et c'est depuis 7 mois. Enfermée chez moi, sans pouvoir retrouver mes parents et amis, j'ai vu la pandémie se propager auprès de peuples indigènes du Brésil et causer jusqu'à ces jours-ci près d'un millier de décès. L'impact de ces événements m'a poussée à consacrer mon intervention à une réflexion sur l'expérience indigène face à ces virus-ci, bien que d'autres virus de notre civilisation. Au cours des 5 siècles qui se sont écoulés depuis l'invasion européenne, des épidémies de tous genres, comme la variole, la rougéole, la varicelle, les typhus, la grippe, ainsi que plus récemment les sida, toujours sous-produits d'un processus de colonisation de longue durée, viennent terrasser les indigènes des différentes régions du Brésil. Mes amis Wari, peuple chez qui je travaille depuis plus de 30 ans, sont contaminés et effrayés par ce qu'ils appellent la maladie invisible. Pour nous, pas si invisible que cela. Non seulement parce que l'on peut examiner les virus à l'aide de puissants microscopes, mais surtout parce que nous savons que la maladie a une cause précise. Tout comme les autres zoonoses, elle trouve son origine dans les déséquilibres des relations avec les autres êtres qui habitent notre planète, marque de notre civilisation naturaliste basée, comme nous l'a enseigné Philippe Descola, sur une ontologie qui suppose une séparation morale et spirituelle entre humains et animaux. Selon Descola, les grands partages fondés sur l'invention de l'idée des natures dans le monde grec et par la suite consacrés de façon divine par le christianisme, instaure la possibilité des relations d'exploitation entre les êtres. Les peuples animistes seraient, quant à eux, symétriquement opposés à nos façons de faire et de voir. Ils supposent justement une continuité morale et spirituelle entre humains et animaux, avec lesquels ils maintiennent des relations à proprement parler sociales, symétriques ou, quand elles sont hiérarchiques, fréquemment fondées sur la possibilité d'une réversibilité des positions. Aux yeux de Wari, par exemple, les proies sont humaines. Elles vivent dans leur maison, avec leur famille, cuisinent, font la fête. Si elles se font tuer ou sont consommées sans que soient observées les attentions dues, elles peuvent se venger. Introduire des maladies chez leurs prédateurs et les émener avec elles pour les transformer en parrains. Il s'agit donc des relations très délicates dans lesquelles est impliquée la réversibilité des positions des prédateurs et des proies. Mon objectif ici est de recourir à l'opposition complexe entre eux et nous comme d'un outil de réflexion sur des projets civilisationnels radicalement distincts. Même si je suis consciente des ensembles artificiels sur lesquels cette opposition se base. Voyons comment il se configure. Je commence par une association originale et étonnamment actuelle, faite par Lévi-Strauss en 1965, entre notre civilisation et les virus. Pour reprendre ces mots, à première vue, les virus, intermédiaires entre la vie et la matière inerte, représente une forme particulièrement humble de la première. En effet, son organisme s'est réduit pratiquement à la formule génétique qu'il injecte à des êtres simples ou complexes, contraignant ainsi leurs cellules à trahir leur propre formule pour obéir la sienne et fabriquer les êtres pareils à lui. Son originalité consiste essentiellement dans une méthode qui sa nature intellectuelle rend impropre à engendrer d'autres civilisations des chairs et des sangs, mais qui peut leur imposer sa formule et les contraindre à devenir semblables à elle. Fin de la citation. Contrairement à ce que nous avons l'habitude de penser, nous ne sommes pas, selon l'auteur, des parasites à proprement parler. Lorsque nous consommons les richesses et les corps de ceux qui nous hébergent, nous sommes des virus, des êtres qui sont à la fois complexes du fait de leur haute capacité d'infection et simples du fait d'utiliser les substrats génétiques reproductifs de leurs victimes pour se perpétuer. Dans les langages d'aujourd'hui, nous serions des hackers, des corps d'autrui, en les infectant à partir d'un attirail intellectuel et technologique complexe. Il est intéressant de voir que, dans le contexte de l'actuelle pandémie, la relation entre corps et virus est fortement basée sur un langage de guerre. Dans les médias, le virus est pris plus comme un ennemi de plus à vaincre, aussi bien individuellement que collectivement. Dans différents pays, les survivants, au sortir de l'hôpital en chaise roulante, portent une pancarte où l'on lit « J'ai vaincu les COVID-19 ». Et les infirmiers et médecins sont, on dit, en première ligne du combat. Cependant, du point de vue du virus, comme nous l'a rappelé Merlin Stratton dans un article récent, nous ne sommes pas ennemis, mais hôtes. Même si par la suite, accidentellement, il nous touille, nous sommes provisoirement sa demeure et sa nourriture. Le virus s'y différencie encore des autres prédateurs, ennemis, parasites et bactéries pour l'effet de forcer nos cellules à l'imiter. Voilà, me semble-t-il, le point central de la réflexion de Lévi-Strauss, en nous renvoyant au problème de la relation des différentes civilisations avec l'autorité, un thème central dans son œuvre. Dans Race Histoire, une ode à l'importance de la diversité, Lévi-Strauss caractérise la dite civilisation occidentale par son horreur de la différence. Pour reprendre ses mots, nous ne voyons pas la diversité humaine comme quelque chose de naturel, mais comme une monstruosité. Ce thème est pris avec plus de profondeur bien des années plus tard dans Histoire des langues. Livre qui thématise, entre autres choses, la rencontre coloniale. Contrairement à Race et Histoire, focalisée sur la perspective occidentale, la question de la différence y est abordée à partir de la mythologie indigène des Amériques. Lévi-Strauss conclut que, en opposition avec les colonisateurs, les habitants du Nouveau Monde voient la différence de façon hautement positive. La figure de la gémellarité lui permet de faire contraster deux grands ensembles mythiques, les Indo-Européens et l'Amérindien. Dans les premiers ensembles, les jumeaux, bien que dissemblables au début, comme Castor et Pollux, finissent par être conçus comme identiques. À l'inverse, dans les mythes des Amériques, les jumeaux, souvent déjà issus de pères divers, se différencient de plus en plus au long de la vie. Il nous faut néanmoins tenir compte, comme l'a fait d'innombrables fois Lévi-Strauss face à ses critiques, que l'opposition entre des types de sociétés ou civilisations, qui est placée ici de façon schématique, est instable et complexe. Cette complexité est clairement formulée dans Race et Histoire, où l'auteur observe que toutes les sociétés sont soumises à deux mouvements contradictoires, quoiqu'elles ne voient que l'un d'eux comme fruit de l'action humaine et perçoivent son envers comme résistance. D'après lui, je cite, l'humanité est constamment aux prises avec des processus contradictoires dont l'un tend à instaurer l'unification tandis que l'autre vise à maintenir ou à rétablir la diversification. La position de chaque époque ou de chaque culture dans les systèmes, l'orientation selon laquelle elle s'y trouve engagée, sont telles qu'en celle de deux processus lui paraît avoir un sein, l'autre semblant être la négation du premier. Cette façon d'exploiter l'opposition entre deux formes distinctes de civilisation est, 30 ans plus tard, développée par Roy Wagner dans son livre « The Invention of Culture ». Selon Wagner, notre mode de reproduction, qu'il appelle « conventionnalisante », cherche la homogénéisation des différences en soumettant celles-ci à des règles et des conventions, comprenant alors la perpétuation des différences comme quelque chose qui arrive à l'insu de nos actions, comme dans cette affirmation. Nous voulons civiliser les Indiens, mais ils n'arrivent pas à être comme nous. De l'autre côté, le peuple autochtone et autres peuples minoritaires se perçoivent un constant processus de différenciation personnelle et collective et voient au contraire l'homogénéisation comme un sous-produit non intentionnel qui exige des nouvelles actions allant dans le sens de la production des différences. Bien que les deux mouvements aient lieu dans diverses sociétés, les perspectives distinctes produisent sur eux des résultats très différents en termes culturels. Cela nous mène à une nouvelle question posée par Lévi-Strauss comme un paradoxe dans une section des Races et Histoires intitulée « Place de la civilisation occidentale ». D'après l'auteur, Toutes les civilisations reconnaissent, l'une après l'autre, la supériorité d'une d'entre elles, qui est la civilisation occidentale. À ce moment-là, par exemple, les pays sous-développés n'accusaient pas les autres de les occidentaliser, mais de ne pas leur donner aussi vite les moyens de s'occidentaliser. Ce qui les pousse à conclure, je cite, « Nous touchons là au point le plus sensible de notre débat. Il ne servirait à rien de vouloir défendre l'originalité des cultures humaines contre elles-mêmes. » Fin de la citation. Quoi que ce soit là une observation datée, formulée il y a près d'un siècle, quand les mouvements d'affirmation culturelle autochtone en étaient à leur prémisse, elle n'en est pas moins pertinente et fait encore aujourd'hui partie du discours courant sur les indigènes. La réponse apportée par Lévi-Strauss au paradoxe met en évidence les rôles de la destruction et la décimation de peuples comme des antécédents nécessaires à leur conversion à notre mode de vie. Sans aucun doute, la destruction des bases de leur existence n'a pas laissé d'option à de nombreux peuples. Marshall Salins, auteur qui a consacré une partie significative de son œuvre à la réflexion sur la rencontre coloniale, souligne la place de l'humiliation culturelle et individuelle exercée par les agents responsables des premiers contacts. Comme moteur des changements radicaux ou un mode de vie, pour employer l'expression même de Lévi-Strauss, est remplacé par un autre. Un exemple clair de cette entreprise des destructions, nous le savons, est la catéchèse missionnaire, thème exploité par un autre auteur qui a poussé sa réflexion sur l'impact de la colonisation. Selon Pierre Clastre, dans « De l'ethnocide », les missionnaires auraient pratiqué un ethnocide en s'efforçant de substituer les croyances barbares païennes par la religion de l'Occident. Il s'agit encore, selon l'auteur, d'un ethnocide optimiste, puisque, je cite, « l'autre » mauvais au départ, y est supposé perfectible. On lui reconnaît les moyens de se hausser par l'identification à la perfection qui représente le christianisme. Nous sommes face ici à l'image bien nette de l'action virale visant la production des répliques de soi dont parlait Lévi-Strauss et dont les éventuels échecs sont historiquement attribués par les catéchistes à la faiblesse morale des Indiens. Comme exemple, chez les Wari, les missionnaires évangéliques de la New Tribes Mission, qui ont agi dès les premiers contacts en 1956, ont produit des manuels de leçons en langue indigène où ils ont cherché à introduire les mépris pour les traditions avec des affirmations du genre. C'est ce qu'ils croyaient les anciens il y a bien longtemps. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent que les choses du diable. C'est fou le diable qui leur donna tout cela. C'est menteur. Nos anciens mentaient beaucoup. Quoique nous devions reconnaître qu'il y ait eu apparemment des cas de conversion radicale, il faut considérer que ce qui semble être un désir clair de devenir blanc recèle divers paradoxes. Les récits des voyageurs, des chroniqueurs et des missionnaires sur les premières rencontres entre les Européens et les indigènes du Brésil vont à l'encontre de la perception de Lévi-Strauss, du fait qu'elle mentionne ce qui leur semblait être la reconnaissance immédiate de leur supériorité de la part des autochtones, qui adoptaient sans hésitation les conduites civilisatrices des envahisseurs. Une telle perception est déjà présente dans la première lettre du Père Manuel da Nóbrega, envoyé au Portugal depuis le Brésil. Tous ceux qui traitent avec nous disent qu'ils veulent être comme nous, bien qu'ils n'aient pas de quoi se couvrir comme nous, et cela a ses inconvénients. S'ils entendent sonner la messe, ils accourent, et quand ils nous voient faire, ils en font tout de même. Ils s'agenouillent, se frappent la poitrine, lèvent les mains au ciel. Et déjà, l'un des plus importants d'entre eux apprend à lire et prend des leçons tous les jours avec grande attention, et en 2 jours, il a su l'ABC en entier. Nous lui avons appris à bénir en prenant tout avec grand désir. 4 siècles plus tard, les informations du missionnaire évangéliste canadien Royal Taylor sur les premiers temps des contacts avec les Wari vont dans les mêmes sens. Je cite, « Dès que quelqu'un voyait arriver les Indiens, il criait « Voilà les Indiens qui arrivent !» Ils se mettaient à courir et traversaient la clairière. Ils, les Indiens, emportaient vêtements et vaisselles. Ils aimaient imiter les civilisés. » Fin de la citation. Cependant, ils s'étonnaient de la docilité des autochtones. Mais ils étaient à la fois surpris par des mouvements allant dans l'autre sens. Le père Antonio Vieira, dans une lettre datée de 1667, les compare à des statues de myrte qui, bien que facilement façonnables, reprennent tout de suite la formule initiale. Plus qu'un désintérêt graduel pour ce qui les fascinait auparavant, c'était des inversions radicales des dispositions qui se produisaient sous la forme d'assassinats et de révoltes collectives. Les Européens, convaincus de leur supériorité et interprétant l'imitation des indigènes comme des expressions de reconnaissance, étaient déçus par ce qu'ils entendaient être les fruits de, je cite, « l'inconstance de l'homme sauvage ». Puisque très vite, les indigènes acquéraient de nouveaux comportements tout en retournant rapidement à des vieilles coutumes. Les envahisseurs, ayant une culture forgée par un christianisme qui valorise l'unité de la personne, ceux-ci ne pouvaient voir les mouvements alternants des indigènes comme les fruits d'attitudes que comme des fruits d'attitudes inconséquentes et superficielles, bien distantes du solide changement antérieur et spirituel professé par le modèle chrétien. Les réactions des colonisateurs à ces déboires impliquaient nécessairement les recours à la force physique qui s'ajoutait aux maltraitances journalières affligées au corps indigène. Néanmoins, ces mouvements d'éloignement et de différenciation n'étaient pas seulement la conséquence d'attitudes morales réprouvables des Européens, mais exprimaient une notion proprement indigène des relations. Pour divers peuples indigènes, l'Européen, tout comme l'étranger, l'ennemi ou les esprits animaux, constitue une voie vers l'expérience d'autres perspectives. Ce qui ne se fait pas par l'identification mentale, comme pour nous, mais corporelle. La proximité, la commensalité et la répétition des gestes remarqués par les missionnaires du fait de promouvoir une transformation du corps aménagent les portes d'entrée donnant sur ces autres mondes. Bien des fois, donc, le mouvement d'identification au blanc n'est pas lié au désir de devenir blanc tel que nous l'entendons, c'est-à-dire comme un chemin graduel qui vise à la complétude. Il est alternant et nous renvoie plutôt à l'expérience chamanique qu'à la conversion religieuse. Le chaman est celui qui, de façon typique, transite entre les mondes, celui des indigènes et celui des esprits, en passant sans cesse d'une perspective à l'autre. Les Wari ont l'habitude d'exprimer cet état de transformation en affirmant que le chaman a un double corps qui lui permet de vivre ici et là et d'assumer des formes distinctes, humaines et félines, par exemple. Bien que nous devions admettre qu'il y a eu de grands changements durables, desquels nous avons de nombreux exemples, il me semble important de considérer l'existence de deux modèles opposés des relations à l'autorité. L'un, des types virals, qui cherchent à imposer son identité, et l'autre, indigène, mutant et mimétique, qui agit en sens inverse, prête à héberger cette nouvelle identité pour bientôt s'en dégager dans un processus constant de différenciation. Reconnexion. Pour conclure, j'aimerais en revenir au thème du virus, maintenant dans une perspective toute différente. Dans un ouvrage récent, la biologiste et philosophe Donna Haraway propose un autre usage métaphorique pour les processus d'infection virale, non plus lié à la destruction, mais bien à la reconnexion entre les êtres et les espèces. Cet autre virus, en passant d'un être à l'autre, n'aurait pas comme fonction de reproduire un code génétique unique en fabriquant des copies de lui-même à l'insu de ses hôtes, pour les laisser, en fin des courses, affaiblis ou morts. Au contraire, les virus agiraient comme un transmetteur d'informations entre différents types d'êtres, animaux et autres, pour les permettre de savoir qu'ils sont interconnectés. Ceux qui sont infectés cesseraient de se penser comme des individus autocontenus pour se voir comme des holo-êtres, tels qu'ils sont les récifs des coraux où une myriade d'êtres des différentes espèces se trouvent indissociablement liés. Ce qui pourtant est le plus important à noter, c'est que le virus de la connexion n'est pas une idée de science-fiction, car elle pourrait être accessible et capturée si nous prêtions attention aux paroles et aux actions de peuples originaires, infectés depuis longtemps par ces virus. Outre les coraux pris comme des images des composés inter-espèces, Haraway propose de recourir à la fabulation et spéculative comme dispositif de connexion entre nous et avec les autres êtres. Rien ne correspond mieux au mode de vie amérindien. Les mythes qu'ils ont l'habitude de se raconter les uns aux autres à la tombée de la nuit sont des histoires sans fin, parce que l'une se connecte à l'autre en un processus continu de transformation qui traverse les frontières ethniques et linguistiques. Ce sont des histoires pleines d'éléments non bouclés qui offrent au récit de nombreuses et nouvelles ouvertures et connexions. Dans les mythes, les humains sont les composés dont parle Haraway, mêlés aux animaux qui changent de forme tout le temps, rattachant passé et présent, haut et bas, chaud et froid, cru et cuit. Ce sont ces histoires que les missionnaires qui arrivent pour les convertir disent être des mensonges, réduisant ainsi tout un appareil intellectuel, complexe, connectif à la notion de croyance, à un problème essentiellement chrétien et donc étrangers aux indigènes. Au moyen de l'humiliation et des démonstrations de pouvoirs trompeuses et devant des populations déjà blessées et détruites par des massacres et des épidémies, Ils finissent par miner cette pensée en offrant comme substitut des histoires bibliques, centrées sur une séparation claire entre les humains et les autres êtres, et où, dans la lecture dogmatique qu'en font les missionnaires, c'est la dichotomie entre les biens et les mâles qui domine. Tous les points de connexion possibles sont ainsi coupés à la machette. Comme notre planète s'épuise, ce dont maintenant nous ressentons tous les effets dans nos corps menacés aux malades, les mouvements que l'on entrevoit n'est pas celui d'une recherche des guérisons, des reconnexions globales, des relations équilibrées entre le peuple et avec les autres êtres vivants. Notre civilisation virale continue sa marche à la recherche d'autres corps à exploiter. Les solutions en vue de son inversion, chaque fois plus difficiles face à la vitesse de la destruction, sont proposées non seulement par des scientifiques spécialisés, mais aussi par la voie directe des indigènes, tels qu'au Brésil, David Kopenawa, Raoni Metuchiri et Ailton Krenak. Ils ne nous proposent pas de devenir animistes, mais de traiter avec respect les êtres vivants et autres êtres non humains, comme les montagnes et les rivières, qui font partie de leur monde mythique, rituel et des sociabilités quotidiennes. Toujours au-devant de son temps, Lévi-Strauss s'était manifesté dans la même direction bien des années auparavant, et je conclus avec ces mots. Je cite, « Qu'avais-je proposé ? De fonder les droits de l'homme, non pas, comme on l'est fait depuis l'indépendance américaine et la Révolution française, sur les caractères uniques et privilégiés d'une espèce vivante, mais au contraire d'y voir un cas particulier des droits reconnus à toutes les espèces. On se trouverait même des pleins pieds avec l'attitude pratique que les peuples dits primitifs, ceux qui étudient les ethnologues, ont vis-à-vis de la nature. Sans théorie explicite parfois, mais en observant des préceptes qui ont les mêmes résultats. Merci beaucoup.